à la maison. Et le mercredi soir, à la place du B-Study, on va avoir une réunion de prière ici. OK? Ça ne se fait pas au campus Coé, ça va se faire ici. On va prier, puis on va implorer Dieu, puis on va juste tout simplement remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la dernière année. Depuis le dernier coup qu'on s'est rassemblés ensemble pour prier comme ça, mais on sait que lorsqu'on jeûne et qu'on prie, mais que Dieu, c'est une promesse qu'il nous fait, il vient nous rencontrer. Parce qu'il regarde au cœur de celui qui est faim, qui est assoiffé. On a parlé de ça la semaine passée. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont répondre? Est-ce qu'il y en a qui vont être là mercredi? OK. Il y en a juste deux, trois, c'est bon ça. Ben moi, je vais être là. C'est bon. Je vous encourage à être là. Ça va bien tout le monde? En passant, dimanche prochain, il n'y aura pas de mini-scène en haut pour les enfants. On veut que justement notre réunion de louange va être accessible pour tout le monde ici. Donc, si vous avez des jeunes enfants, ils vont pouvoir louer avec nous. Ça va vraiment être un temps familial. Et après ça, après la prédication, après le moment de louange avec Sean Foy et notre team, bien, ce qui va se passer, c'est que nos enfants vont être relâchés vers leur classe. J'aimais quand même vous avertir. Donc, juste pour pas qu'il y ait de surprise, ça va vraiment être un cool moment familial. Donc, y en a-t-il qui vont être là la semaine prochaine? Yes, c'est bon. Mais là, vous êtes là. Ah, les enfants n'ont pas encore été relâchés. Les enfants peuvent être relâchés. Pendant qu'on relâche les enfants, je vais en profiter pour vous donner 2 minutes. 2 minutes, n'en prenez pas plus. C'est le temps de se lever, aller aux toilettes. Parce que quand on commence, j'aimerais qu'on reste attentif, qu'on ne bouge pas et qu'on soit ensemble à travers ce que Dieu va nous amener à vivre ensemble. Donc, vous pouvez jaser, prendre 2 minutes avec votre voisin. Je vous dis, hey, bonjour, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est bon, si tout le monde peut se ramener. Est-ce que tout le monde peut se ramener, s'il te plaît? Merci. On va commencer. Juste avant la prédication, vous savez, on est une église. Une église, c'est quoi? C'est aussi une famille. Oui, on est l'épouse de Christ, puis on est un beau rassemblement. Je demanderais vraiment d'avoir l'attention de tout le monde, s'il te plaît. C'est important. Quand on est en famille, quand il y en a qui souffrent, puis on est appelé à souffrir avec. Quand il y en a qui sont dans la joie, on est appelé à être dans la joie. Et donc, je vais laisser Pierre expliquer un petit peu ce qui se passe, mais il y a une situation familiale de son côté de la famille en France que je crois qu'on devrait vraiment entreprendre dans la prière aujourd'hui.
Je vais faire ça vite, mais dans le fond, mon oncle et ma tante sont partis en vacances, puis ça fait 3 jours qu'ils n'ont plus de nouvelles, ils ne sont pas rentrés à l'hôtel. Les policiers, ce matin, ils ont retrouvé l'auto qu'ils avaient louée, qu'ils n'ont pas ramenée, ils ont retrouvé l'auto. Fait que là, ils sont en train de chercher autour de l'auto, là, dans les chemins de randonnée, qu'ils étaient probablement allés faire une randonnée, puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Les policiers sont en train de chercher avec les hélicoptères et tout, là, fait que... Ça serait vraiment un miracle qu'on les retrouve en vie, je pense, puis en bonne santé. Fait que j'aimerais ça qu'on prie vraiment pour ce miracle-là, que ce soit. C'est Yves et Patricia.
Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Il n'y a pas de distance dans l'esprit entre la France et le Canada. Et donc, on va juste s'élever les mains. Puis Dieu, on veut vraiment t'implorer ta main sur Yves et Patricia. On te remercie parce que, Seigneur Dieu, tu les connais, ils te connaissent. Puis Dieu, tu tiens à les garder en sain et sauf, Seigneur Dieu. Puis on déclare que qu'ils puissent retrouver justement Yves et Patricia. On déclare que les policiers les retrouvent, Seigneur Dieu, sains et saufs. On déclare que Seigneur Dieu, tu es le Dieu des miracles. Et Dieu, tu as été capable de sauver, Seigneur Dieu, Daniel de la fosse aux lions. Seigneur Dieu, s'il se retrouve dans une fosse aux lions, on déclare justement que la main du voleur, du destructeur, Seigneur Dieu, elle n'est pas capable de les toucher dans le nom de Jésus. On déclare que tu es vraiment un Dieu de miracles et on appelle vraiment ta main, ta protection sur eux. Dieu, t'es a guidés, Seigneur Dieu, puis on déclare qu'ils sont protégés sous ton aile. Puis on déclare que tu puisses être justement un soutien pour la famille Rosée, toute la famille, Seigneur Dieu, tout le monde qui peut être affecté par ces événements. On déclare une paix qui surpasse notre propre paix, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dieu est bon. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, vraiment, je veux te remercier parce que ta parole, elle est vérité. Ta parole, Seigneur Dieu, parle à nos cœurs. Et elle détruit les mensonges de l'ennemi. On vient chasser tout mensonge, Seigneur Dieu, toute voix mensongère qui peut, Seigneur Dieu, tourmenter ton Église, qui peut tourmenter tes enfants, tes fils et tes filles. Dieu, merci parce que tu nous appelles tes fils et tes filles. On est non sous l'esprit de ce monde, on est adoptés. Merci parce que ton sang nous couvre. Et lorsque le Père nous voit, lorsque toi tu nous vois, Père, tu vois ton fils Jésus. C'est à cause de ça qu'on peut recevoir tous les bienfaits de ta parole. Et donc, on déclare cette vérité sur chacun et chacune dans le nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, on rentre dans une saison de consécration. Je crois que l'Église est appelée à vivre la consécration constante. L'Église est appelée à être consacrée envers son mari, on est l'épouse de Christ et Dieu nous a appelé ses enfants, ses fils et ses filles. Donc en étant, on n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec le Dieu de l'éternité, le Dieu tout-puissant et Dieu t'aime ce matin. Je veux vraiment te le rappeler, Dieu t'aime. Et donc la semaine passée, il y a deux semaines, j'ai commencé une petite série qui était pour nous amener à vivre le réveil Sainte-Sainte d'une façon sainte. Et qu'on était pour vraiment être consacré. Et donc, la première semaine, je me suis concentré sur le mot kava, qui était attendre. On est appelé à se confier en l'Éternel, mais on avait appris que dans Ésaïe, lorsque ça dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu les fait prendre leur envol comme des ailes, ce que ça voulait réellement dire, c'était attendre. Ceux qui attendent, ils prennent leur envol comme un aigle. Pourquoi? Parce qu'ils attendent la puissance de Dieu. Et lorsqu'ils ont la puissance de Dieu, Dieu les back. Et après ça, on est allé, puis on a dit, des fois, on attend tous après quelque chose, puis des fois, quand ça tarde ou quand ça semble tarder, selon notre horaire, des fois, on n'a pas le choix. En fait, on n'a pas le choix de se mettre à crier à Dieu. Et Dieu entend le cri de celui qui est désespéré, de celui qui crie de tout son cœur. Et on avait vu que dans l'hébreu, il y avait une différence, il y avait différentes sortes de cris qu'on ne voit pas lorsqu'on lit dans notre français. Et donc, il y avait le kara qui est se plaindre, et des fois, on kara énormément. Et après, il y avait le zak. Et le Shava, qui était Dieu SOS, je ne suis plus capable par mes propres forces, n'a pas le choix d'entreprendre cette situation parce que moi, je suis impuissant. On est impuissant, mais Dieu vient fortifier celui qui est impuissant. Quand tu cries à lui, il entend le désespoir. Il regarde à ton cœur. Et donc, avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais qu'on relise le verset clé du mois, parce qu'on s'est appuyé là-dessus tout le mois. Dans Ésaïe 40, versets 27 à 31, ça dit « Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Est-ce que je parle à des gens qui veulent réussir ce matin? Dans toutes les sphères de leur vie, je crois que tout le monde est... En fait, je sais que tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde est appelé à courir vite avec le Seigneur. Tout le monde est appelé à prendre leur envol tel qu'on le voit ici. Le problème, bien des fois, ce n'est pas que l'Église ne veut pas réussir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas réussir, c'est que des fois, on ne sait pas nécessairement comment réussir. Mais Dieu tient à nous faire réussir. Le problème, c'est que des fois, on vit dans une culture, la culture de notre génération peut te mettre de la pression. Et nous sommes dans un mouvement de malbouffe, ce qui veut dire qu'on veut tout rapidement. On veut réussir, mais si on s'y prend par nos propres forces, c'est qu'on a de la pression. La vie vient nous presser et souvent elle va nous faire comprendre que si on ne réussit pas, ben on est rien. La réalité, c'est que tu es quelqu'un. Tu es un fils, tu es une fille. Et si tu es un fils et tu es une fille, j'aimerais te dire que ton Père Céleste a des clés à te donner aujourd'hui qui va t'amener à voir justement ce que tu attends arriver. La vie nous dit d'aller vite, 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 vite. Mais Dieu nous dit quelque chose d'autre. Il nous dit qu'il faut s'arrêter. Bien des fois. Si on est appelé à attendre Dieu, bien avant d'attendre, il faut être arrêté. Et pour vivre justement cet envol-là, bien, il faut être renouvelé par justement la puissance du Saint-Esprit. Si tu ne t'arrêtes pas, tu devras revenir tôt ou tard en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu, est-ce qu'il y en a qui savent lire en diagonale ici ce matin? OK. Moi, à l'université, lorsque j'étais pressé, lorsque je n'avais pas nécessairement fait mes devoirs à temps, ben j'ai découvert une méthode de lecture que je me suis dit qui pourrait m'être efficace. Et je peux pas nécessairement dire que je suis un bon lecteur en diagonale, mais j'ai essayé la lecture en diagonale. Et la lecture en diagonale, ce que ça veut dire, c'est que tu lis de la gauche à la droite, tu y vas très rapidement, puis tu peux essayer de comprendre c'est quoi que l'auteur voulait te dire en y allant très vite, bien sûr, mais tu essaies de capter le plus possible ce qui se passe dans le texte. Et donc, souvent, lorsque j'étais en retard, puis lorsque j'étais stressé, puis lorsque la vie me mettait de la pression à finir mon devoir, puis au fin fond, des fois, c'était de ma faute parce que je n'avais pas fait mes devoirs à temps, bien, ce qui se passait, c'est que je me mettais à lire en diagonale une page, deux pages, trois pages, quatre pages, puis là, tout à coup, je suis comme, j'ai-tu bien compris ce qui se passe? Puis là, je me retrouvais à être confus, puis là, je retournais vers l'autre page d'avant, puis je lisais un petit peu plus, puis là, je retournais vers l'autre page. Puis là, je réalisais que je n'avais pas nécessairement bien compris bien des fois. Et donc, vous savez, je ne suis pas un expert. Il y en a des experts ici en lecture en diagonale, mais moi, ce n'est pas mon cas. OK? Mais là, des fois, je me souviens, une fois en particulier, j'avais lu un bon texte. Là, je pense que j'étais rendu 10 pages dedans, puis il avait fallu que je retourne au tout début, puis que je les relise. Puis là, je suis reparti en diagonale. Une page, deux, trois pages. Puis là, tout à coup, je suis comme, mais man, je comprends pas, c'est trop compliqué, ce texte-là. Puis au fin fond, il a fallu que je m'arrête, que je revienne en arrière, que je prenne le temps de le lire et de faire les choses comme du monde. Puis j'ai réalisé que j'avais pris plus de temps en essayant d'aller vite qu'en prenant le temps de faire les choses comme du monde. Puis des fois, je pense qu'on est un petit peu comme ça. On pense aller vite, mais en allant vite, en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on n'aura pas le choix de revenir en arrière. Puis, dans la parole, dans le psaume 46, ça dit, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Dieu est maître de ta situation, on n'arrête pas de dire qu'il est fidèle. Et si tu t'arrêtes, tu vas voir sa main fidèle entreprendre ta situation. J'aimerais faire un dessin pour nous ce matin. Ça va être rien de trop compliqué. J'aimerais qu'on fasse une ligne du temps. Ce n'est pas nécessairement la ligne de ta vie. Est-ce que vous voyez bien en passant sur en arrière? Je ne fais pas des gros dessins compliqués, mais voyez une ligne. Hein? Okay, pour ceux d'ici en avant, elle est un petit peu plus épaisse, puis pour ceux d'en arrière, mais vous voyez presque rien. C'est un fil. Nous, là, dans notre vie, notre but, c'est d'aller loin. Vrai ou faux? C'est bon, ça. On veut vivre loin. On veut vivre vieux. Mais on ne parle pas de ce. En fait, notre réussite, on va dire que notre réussite, une partie de notre réussite est ici. OK? Réussite. J'écris réussite pour ceux en arrière. OK? Une partie de ta réussite est ici. Toi, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu peut mettre un stop ici. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? OK. Dieu peut mettre un stop ici. Le bug, c'est des fois, on s'avance, puis on pense que notre réussite, elle est ici. Mais on n'a pas toutes nécessairement les clés pour vivre cette réussite-là. Puis Dieu nous a demandé de s'arrêter un moment ou l'autre dans notre vie. On était appelé à s'arrêter. Mais ce qui se passe, c'est que des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et donc, on est avancé. On est plus loin qu'on devrait. Mais le bug, ce n'est pas qu'on n'est pas avancé, c'est qu'on s'est avancé sans Dieu. Et donc, si tu es avancé sans Dieu, tu ne verras pas nécessairement sa main dans tout ce que tu entreprends. Et Dieu veut te donner du succès. J'aimerais qu'on lise un verset ensemble ce matin. Le verset que j'aimerais qu'on lise, c'est le psaume 1 à 4. Ça dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau et donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. » Des fois, ou si tu acceptes la pression d'avoir avancé et de ne pas t'arrêter, ce qui va se passer, c'est que la parole nous compare soit à un arbre qui est ferme, affermi et qui grandit, ou elle nous compare aussi à une paille. Puis une paille, ça bouge, mais d'une autre façon. Ça bouge pourquoi? Ça bouge quand le vent, justement, la fait bouger. OK? Et donc, des fois, on se retrouve à bouger comme ça. OK? Pourquoi? Parce que le vent de la vie nous souffle dans une direction. Mais Dieu nous a demandé de s'arrêter. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un exemple en particulier. Peu importe ce que tu attends aujourd'hui, tu attends peut-être ta guérison, tu attends peut-être ton futur mari, ta femme, ton enfant, la conversion de ton époux, de ton épouse, ton enfant, tes enfants, ta famille. Peut-être que tu attends un nouvel job, une carrière. Peut-être que tu attends une maison. Dieu t'y a rencontré tous ces besoins-là. Mais des fois, on essaie d'entreprendre ces choses-là par nos propres moyens. Donc, on se met à courir à gauche, à droite. Mais je crois que ce que Dieu veut qu'on sache ce matin, c'est qu'on est appelé à s'arrêter. Et s'arrêter veut dire s'arrêter. OK? Je la réussite, ta percée, ton rêve n'est pas toujours devant. Mais si tu es trop avancé sans Dieu, c'est en fait derrière toi. Comme j'ai dit, des fois on lit en diagonale. On s'avance. Et si on s'avance trop, on n'aura pas le choix de retourner. En fait, des fois on n'a pas le choix de retourner à notre première mission que Dieu nous a donnée afin de pouvoir passer cette mission-là pour se rendre à la prochaine. Des fois, j'ai l'impression qu'on veut accomplir mille et une choses en même temps. On essaye d'avancer, puis on essaye par nos propres forces. En réalité, ce que je veux qu'on sache ce matin, c'est qu'on ne peut pas y arriver par nos propres moyens. On n'a pas le choix de s'arrêter. Et donc, si on s'arrête, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir comme cet arbre qui est près des courants d'eau. Puis un arbre qui est près des courants d'eau, mais il donne son fruit en sa saison. Je vous ai posé une question très, très brève ce matin. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent réussir? Tout le monde a dit oui, c'est normal. Il n'y a personne ici qui va dire, mais moi, je n'ai pas envie de réussir. Mais est-ce que tout le monde réussit? Est-ce que chaque chrétien réussit? Non. Pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. Juste un instant. Je check mes notes. La raison pourquoi tout le monde ne réussit pas, c'est que bien des fois, on ne s'arrête pas assez. Dieu tient à ce que tu sois affermi, stable dans un lieu de croissance, mais c'est seulement possible si tu es arrêté et si tu attends. On a parlé de l'attente il y a 3 semaines. Si tu cavales et si tu attends Dieu, Dieu va venir te rencontrer. Maintenant, un arbre, c'est ferme. C'est affermi. Ça dit dans la parole qu'on est appelé être un arbre planté près des courants d'eau. Moi, je me posais la question, pourquoi on est appelé être un arbre planté près des courants d'eau? Puis ma première question si on parle de réussite, la première chose qui m'est venue à la tête, c'est bien, moi, ne connaissant pas nécessairement l'agriculture, je sais que Dieu m'appelle à entendre, il m'appelle à crier à lui, puis il m'appelle à m'arrêter comme un arbre près des courants d'eau, à être planté comme un arbre près des courants d'eau. Je me disais, OK, si je suis comme un arbre planté près des courants d'eau, ça veut dire que mes racines vont aller profondes, puis vont aller prendre l'eau de la terre, puis à cause que mes racines sont aux bonnes places près de l'eau vive de Dieu, mais la réalité, c'est que moi, en tant que personne, je vais grandir, je vais devenir tout l'arbre que Dieu m'appelle à être, puis ça va être extraordinaire, ma vie va porter du beau fruit. C'est ça que j'avais comme compris de ces versets-là. Puis en faisant des recherches la semaine passée sur justement le sujet, sur pourquoi Dieu nous compare à un arbre près des courants d'eau ou à une, justement, à une paille. Puis si on prend en considération qu'on est un arbre planté près des courants d'eau, je me dis, on est planté par Dieu. Non, la réalité, c'est quand tu étudies, j'ai tapé sur Google, pourquoi est-ce qu'on plante un arbre près des courants d'eau? J'ai juste fait ça, OK? Puis ça m'a amené sur un forum de fermiers qui expliquait pourquoi les fermiers, c'est bon pour eux, s'ils ont des courants d'eau sur leur ferme, de planter des arbres près des courants d'eau. Puis je suis comme, OK. Puis regardez bien ça, OK? C'est vraiment, vraiment cool. Nous, on n'est pas nécessaire. Puis il faut comprendre qu'il y a des termes dans la parole qui parlent d'agriculture parce qu'on parle de. C'est une culture très agriculteur. Et donc, nous, nécessairement, on ne comprend pas toutes ces choses-là, mais je trouve ça vraiment extraordinaire comme ça peut nous faire du sens aujourd'hui. Ils font. Premièrement, la première raison pourquoi un arbre est appelé à être planté près des courants d'eau, c'est que les arbres, un fermier va planter. Un fermier va planter son arbre près d'un courant d'eau, car. La première raison, c'est qu'ils font de l'ombre et refroidissent l'air et l'eau des ruisseaux. Ça veut dire que ta vie, Dieu veut que tu sois un lieu paisible. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui réussit d'une façon paisible. Il veut que tu sois un lieu paisible et frais pour ton entourage, mais ça peut seulement arriver si toi, tu es au calme et pas en train de suer. Une autre raison pourquoi un arbre est planté près des courants d'eau. Là, je vais lire les descriptions. Ça dit, en fait, les arbres peuvent nettoyer le sol et l'eau qui s'infiltre en absorbant les produits chimiques et les autres polluants. Les scientifiques ont étudié la façon dont les arbres filtrent les eaux usées et les produits chimiques d'agricole. Ils aussi réduisent les effets nocifs des déchets d'animaux, concentrés et nettoient les eaux et les ruisseaux qui pénètrent dans les cours d'eau. En fait, des fois, on est planté, puis notre réussite n'a rien à voir nécessairement avec nous. Mais toi, à propos du fruit que nous allons produire, que nous allons amener à notre génération, Dieu veut que tu sois un filtre, un instrument de pureté dans ta génération. Tu es appelé à être un filtre dans ton entourage. Le Saint-Esprit en toi est un esprit de pureté. Je porte un beau t-shirt qui dit « pure », mais la réalité, en passant, c'est un mouvement de jeunesse, c'est cool, mais tu es appelé à être un instrument de pureté. Le Saint-Esprit tient à te purifier dans la consécration. Il tient à t'amener près de son cœur, mais si toi, tu viens près de son cœur, par tout ce que toi, tu vas passer après ça, mais les gens vont savoir que tu as passé du temps avec le roi des rois. Puis le Seigneur des Seigneurs. Les arbres qui sont plantés près des courants d'eau ralentissent les montées d'eau et réduisent le risque d'inondation aussi. Donc, sont plantés là, en passant, sont plantés là, pourquoi? Pour justement réduire, pour être un instrument de paix qui puisse calmer la tempête, les tempêtes. Il y a plein de gens qui vivent des situations dans ton entourage. Il y a plein de gens qui vivent des choses horribles. Mais toi, tu es appelé à justement calmer les tempêtes. Tu es appelé à être Jésus dans la barque. Quand le monde s'affole et que la tempête fait rage, ta vie est appelée à être comme cet arbre. Tu es appelé à justement calmer les eaux, les montées d'eau. Puis ça, c'est... Les arbres cassent la force du vent pour aider à garder la terre en place. Leurs racines lient le sol et contribuent à la stabilisation des berges. En étant stable, en t'arrêtant, ta vie va stabiliser les gens dans ton entourage. En fait, trop souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'avancer comme ça. Mais Dieu nous appelle à des fois revenir en arrière, puis à mettre justement à être planté près d'un courant d'eau, près d'une berge d'eau. Okay? L'eau, on va dire qu'elle est ici, là, il y a des belles. Puis ce qui se passe, c'est que tes racines, si elles vont profond, si tes racines prennent place à quelque part et que tu n'es pas déstabilisé par les événements, comme une paille qui est trimballée à gauche et à droite, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas grandir. Toi, tu vas porter tout ton fruit. On va faire semblant que c'est un arbre ici, OK? Toi, tu vas grandir. Et non seulement est-ce que tu vas grandir dans la profondeur, tu vas commencer à grandir en hauteur. Puis ça dit que celui dans Ésaïe, dans Ésaïe 40, ça dit qu'ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer, mais ça dit aussi qu'ils prennent leur envol comme les aigles. On n'est pas appelé à juste aller loin comme ça. On est appelé à aller haut aussi, mais on va seulement aller haut si on va profond. Puis trop souvent, je crois que l'Église néglige la profondeur. Des fois, on néglige ce qui est réellement important. On n'est pas appelé à être déstabilisé. Une paille, c'est rien. Mais un arbre, c'est fort. Il y a peut-être un mois, j'ai invité mon beau-frère qui avait une chainsaw, Kevin. Une chainsaw. J'ai invité mon beau-frère Kev à venir couper un arbre chez moi. Puis c'est un petit arbre. Un petit arbre de rien. Puis ça nous a, je pense que ça nous a pris deux fois. Parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait comme une roche à côté de l'arbre. Puis on l'a coupé un peu trop bas du tronc, puis de la terre. Puis en allant vers le bas, ben ça créait des flamèches. Puis enfin, on comprenait pas c'est quoi qui se passait. Puis on a comme réalisé à la fin qu'il y avait... Puis ça nous a pris comme deux shots, mais ça nous a pris... C'est dur, des fois, tasser un arbre. Puis la réalité, c'est que mon arbre est quand même là dans la terre. Ses racines sont quand même là. On est appelé à non seulement grandir comme ça. Ben enfin, on est appelé à aller profond. Mais si on va profond dans la terre, dans la parole, et qu'on devient cet arbre qui est planté à la bonne place, la réalité, c'est que tous tes rêves, toutes tes ambitions, tout ce que tu espères vivre, tu vas les vivre. Parce que l'arbre va continuer à grandir. Et ce que tu espérais vivre, tu vas le vivre parce que tu t'es arrêté. Tu vas te rendre beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Tu vas atteindre bien plus. Et tu vas devenir cet arbre-là qui porte du fruit pour 30, 60 ou 100 pour un, tel que la parole nous enseigne. Les arbres cassent la force du vent pour aider et garder la terre en place. Leurs racines lie le sol et contribue à la stabilisation des berges. Es-tu stable? Si tu es stable, ta vie va stabiliser d'autres personnes. Les arbres, celle-là est bonne, les arbres créent de l'oxygène. Un arbre mature produit autant d'oxygène par saison que 10 personnes. Ils agissent également comme des filtres géants nettoyant l'air que nous respirons. Les arbres nettoient l'air en interceptant les particules en suspension dans l'air, en réduisant la chaleur et en absorbant les polluants tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d'azote. Dieu nous compare à un arbre. Pourquoi? Parce que tu es appelé à non seulement porter du fruit. Nous, on se dit, c'est beau, je vais porter du fruit. Non, mais il y a plus dans ce verset-là que nous, on peut comprendre. En gros, ce que ça te dit, ce que c'est là pour te dire, c'est que tu es appelé à amener la vie partout ce que tu passes. Tu es appelé à changer l'atmosphère. Est-ce que ta vie reflète l'atmosphère du royaume des cieux aujourd'hui? C'est supposé, en tout cas, apporter l'atmosphère du royaume. T'es porteur du souffle de Dieu. Ça dit qu'un arbre porte, dans le fond, a plus d'oxygène que 10 personnes assemblées ensemble en un an. Et donc, ta vie est appelée à apporter plus de vie que d'autres mondes. Parce que tu as le royaume des cieux en toi. Tu as le même esprit, je l'ai dit tout à l'heure, le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, t'habite. Tu as la même puissance. Son air est dans tes poumons. Sa vie éternelle est en toi. Et le mot, quand ils vieillissent, et meurt. Quand les arbres vieillissent et meurent, celle-là est bonne. Les biotombés dans l'eau feront un excellent habitat pour les poissons. Ce que tu fais ici, sur cette terre, si tu es ferme, si tu es planté à la bonne place, continuera. Ce que ta vie portera encore du fruit, même après ton départ. Tu laisseras un héritage, une maison pour des générations à venir. Et cette maison-là, cet héritage-là, c'est le royaume des cieux. En Proverbe 13, verset 22, ça dit, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » Est-ce qu'il y en a qui veulent laisser des héritages dans ce lieu? Est-ce qu'il y en a qui veulent porter du fruit? C'est le fruit de ta vie est appelé être un fruit éternel. En psaume 1, ça dit, « Il ressemble à un arbre planté près des cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Tout le monde veut réussir. Mais tu ne peux pas réussir si tu avances par tes propres forces. Est-ce que tu as lu en diagonale trop longtemps pour ne plus rien comprendre? Si c'est ce que tu as vécu, tu n'as pas eu le choix à un moment donné de revenir en arrière. Tu dis, mais Dieu, ma vie ne ressemble pas à celle que j'avais prévue. Bon, on passe tout là en passant. C'est où ce que j'ai manqué? T'sais, vous savez, des fois, on demande des paroles à Dieu. On demande des confirmations, des paroles prophétiques, puis on est une église apostolique prophétique, donc c'est les paroles d'encouragement, mais ils peuvent venir de gauche et à droite, ça peut venir d'un peu partout. Pourquoi? Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, puis Dieu te connaît, puis donc il peut utiliser ton frère pour t'encourager. Puis des fois, on a des prophètes qui viennent, comme la semaine prochaine, on a Sean Foyt qui vient, qui a une onction prophétique, qui va venir bénir notre assemblée. Là, je sais qu'il y en a le dernier coup, quand T.J. Green est venu, vous aviez tout hâte, vous espériez peut-être que ce soit vous qui recevez la parole de Dieu, puis vous étiez en avant. Puis limite, là, il y en a que je vous ai vu. Hein. Vous êtes arrivé avec un beau T-shirt jaune flash, puis vous dites, « Look at me, preacher! I want the word! » Là, il y a des petites bonnes femmes qui se sont faites teindre les cheveux rouges pour copier Marie-Josée, parce que Marie-Josée, le dernier coup, elle avait une parole, puis elle avait ses cheveux rouges. On cherche toute la parole, on aime tout l'encouragement. Mais ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as fait avec la dernière parole que tu as reçue, il y a peut-être 2-3 ans? Moi, au fin fond, c'est ça le sens de ce. C'est ça le cœur de ce message. Là, à l'âge de 17-18 ans, j'ai reçu des centaines de paroles. J'allais dans une conférence, ainsi, à une réunion. On dirait que j'étais comme le tous les radars prophétiques venaient sur moi, puis un jour tu vas être ici, puis un jour tu vas faire ci, puis un jour puis aujourd'hui c'est cool parce que je commence à vivre l'accomplissement de ces paroles-là, puis c'est extraordinaire. Mais après ça, genre vers comme 24-25 ans, ça a été des années désertes. Genre, mais quand je dis désert, ça veut dire que j'allais à des conférences, j'allais à des plages, j'allais à l'église, puis il n'y avait personne qui me donnait nécessairement de paroles. J'avais juste hâte, moi, c'était d'entendre une parole, puis j'étais comme, ben Dieu, Il me semble que ça fait longtemps que j'ai rien reçu de toi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'aimes encore? Il y en a-tu qui l'ont déjà vécu, ça? Puis, je vais vous dire ce que Dieu, moi, me dit. Il me dit, ça c'est personnel à mon histoire, mais il dit, qu'est-ce que tu as fait avec les paroles que je t'ai données, là, genre, une couple d'années? Reviens en arrière. Retourne là où tu étais et commence à vivre ça. Arrête-toi, arrête de bouger puis d'essayer d'accomplir tes paroles ou d'essayer d'en avoir d'autres sans nécessairement toucher à celles que tu as reçues hier. Si tu te mets à vivre celles que tu as reçues hier, bien, une parole va enclencher une autre parole puis une mission va enclencher une autre mission et tu vas te mettre à grandir et porter énormément du fruit. Puis notre vie va commencer à ressembler à cet arbre-là. J'ai demandé à la question tout à l'heure à tout le monde, est-ce que vous voulez réussir? Tout le monde a dit, oui, j'ai envie de réussir. Ouais, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix dans la consécration, dans l'abandon envers Dieu, envers ton roi? Si tu t'arrêtes, j'aimerais te dire qu'il va se manifester. Mais Dieu, il va te poursuivre, OK? Il va courir après toi, il va envoyer des anges, il va tout faire pour te ramener, mais ça ne change quand même pas le fait que si toi, tu essaies d'avancer puis de réussir par tes propres moyens, tu ne réussiras pas nécessairement de cette façon-là. Tu n'auras pas le choix tôt ou tard de revenir en arrière et de devenir quelqu'un de stable, affermi dans la parole. Car c'est comme ça que Dieu nous fait prospérer. Dans Matthieu 6, verset 5, ça dit, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra ouvertement. » Ce que Dieu est en train de nous dire à travers ces versets-là aujourd'hui, je crois, ça, c'est plus que, je crois, un mode d'emploi, un mode d'emploi pour la prière. On peut aussi l'entreprendre dans nos façons de vivre, dans nos projets. Et en gros, il est en train de dire, allez pas faire vos hypocrites dans la rue, allez pas à la synagogue, là. C'est tout bon. C'est important. Mais c'est quoi la première étape de ta journée? C'est où tu commences ta journée? C'est à la maison. C'est dans ta chambre. Tu te réveilles, tu lèves les yeux, tu regardes ton téléphone. Ça se passe où? Est-ce que ça se passe dans la rue ou dans la synagogue ce moment? Ça se passe à la maison, dans ta chambre. Je crois que Dieu veut nous ramener vers la chambre. Des fois, on s'est tellement avancé par nos propres moyens qu'on est rendu dans la rue, qu'on est rendu dans la synagogue, puis qu'on essaye d'avancer, puis de réussir, puis on est hypocrite. Mais est-ce qu'on revient à la... Revenons à la première étape. Reviens à la maison. Reviens à la chambre. N'oublie pas ton premier amour. C'est entre... Grandis, mais grandis dans la profondeur. Si tu grandis dans la profondeur, j'aimerais te dire que tu vas aller haut, tu vas aller loin avec Dieu. Ça fait un bout qu'en tant qu'Église, on n'a pas fait la Sainte-Seine. Pourtant, on s'appelle l'Église Sainte-Seine. Un petit jeu de mots, en tout cas, c'est une scène qui est sainte, mais la Sainte-Seine, le repas du Seigneur représente quoi? La communion. Ça représente l'intimité qu'on est appelé à avoir avec Christ. Puis je crois que Dieu veut nous ramener vers notre premier amour ce matin. Puis avant de commencer justement une semaine de jeûne et prière, comme Dieu peut nous le dire de le vivre à chacun de nous personnellement. Le jeûne et la prière, c'est quoi? C'est dire à Dieu, « Dieu, je te désire plus que n'importe quoi. J'ai faim et soif de toi. » Je suis prête à te le montrer de cette façon-là. C'est pas une performance que tu fais envers ton Dieu. C'est tout simplement un cri du cœur. La semaine passée, on a dit que Dieu entendait le cri de celui qui était désespéré. Dieu entendait le Shava et le Zach. J'aimerais te dire que Dieu va entendre ton Zach, il va entendre ton Shava, il va entendre ton cri, le cri de ton cœur. Mais on n'a pas le choix de revenir à la base. Et la base, c'est qu'on est amoureux de Jésus. Et qu'on l'aime, pourquoi? Parce que lui nous a premièrement aimés. Est-ce que tu aimes Jésus ce matin? Et donc, j'ai vraiment à cœur qu'on fasse quelque chose de, je crois, prophétique en tant qu'Église. J'aimerais qu'on montre à Dieu qu'on a faim et soif de lui. J'aimerais qu'on va faire la Sainte-Seine. J'aimerais inviter les musiciens. On va prendre une Sainte-Seine ensemble. On va prendre la communion. Puis il y a des tables respectives un peu partout. Il y en a en arrière, il y en a deux ici en avant, puis je crois qu'il y en a deux derrière. On va prendre le pain qui représente le corps de Christ. Et on va prendre le faux vin qui représente son sang, qui nous a lavé de tout péché, qui nous a rendu blancs comme la neige, tel qu'on est. On n'est pas parfait, mais on est perfectionné par le sang de Jésus. On est parfait en Jésus. Et le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans chaque vie ici. il tient à l'accomplir. Il tient à nous faire réussir, mais on est seulement capable de réussir si on marche avec Jésus. Donc, on va revenir vers notre premier amour ce matin. Puis on va lui dire prophétiquement, Dieu, cette semaine, je m'engage à avoir faim et soif de toi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Dans Luc 22, versets 19 à 20, ça dit, « Ensuite, il prit du pain. » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui est là. « Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la donna. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus, ce matin, on veut dire qu'on est tellement reconnaissant pour ton corps que tu as livré, que tu as livré sur une croix. Ça devait être nous, Seigneur, qui payons ce prix parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu nous as rachetés. T'es parfait. Tu l'as toujours été. Puis t'as quand même pris nos péchés. T'as pris nos failles. Et nous t'avons crucifié. C'est notre péché qui t'a crucifié. On est tellement reconnaissant ce matin pour le don que t'as fait sur la croix. Pour moi, à cause de moi, à cause de nous et pour nous. C'est pour ça qu'on vient te louer ce matin. On vient te donner toute notre affection. On ne veut pas le prendre pour acquis. C'est pour ça qu'on va prendre justement ce pain dans quelques instants. Il dit, on veut vraiment te remercier ce matin pour le sang qui a coulé sur la croix du calvaire. Merci parce que dans ce sang, il y a la purification. Dans ce sang, il y a la sainteté. Ce sang a coulé pour nous, à cause de nous. Il nous a couverts. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes libres. Par tes meurtrissures, nous sommes délivrés. Par tes meurtrissures, nous sommes parfaits. Tu nous as perfectionnés sur la croix. C'est une œuvre qui est déjà accomplie. Et ce matin, Jésus, on veut te donner toute la gloire, l'honneur. Et on veut remercier la puissance qu'il a dans le sang de Jésus. On dit tout le temps, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es fidèle, même quand nous, on ne l'est pas. Et Jésus, ce matin, on veut te dire qu'on t'aime. On ne veut pas prendre le prix que tu as payé à la légère. Donc, c'est pour ça qu'on se rassemble, à l'entour du pain et du vin, dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous avancer. Venez prendre le pain et les petites coupes de jus de raisin. Ramenez-le à votre banc. Prenez-les pas tout de suite. Prenez-le. Ce qu'on va faire, c'est on va se mettre, l'équipe de louange, on va se mettre à louer Dieu, OK? Je veux que vous le preniez dans une position de cœur reconnaissante, de louange. Donc, prenez-le pas à la légère. Revenez à vos places. Avec. Et dans cet instant de louange que vous allez vivre avec Dieu, quand que vous ressentez dans votre cœur, que votre cœur est disposé à réellement remercier le Seigneur, prenez-le entre vous et Dieu ce matin. pouvez être assis, vous pouvez être debout, c'est pas important. Ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Profitons de ces instants avec Jésus.